de reprendre là-bas pour nous mettre à niveau. Mais je pense qu'on avait dit, Yaakov et Lavan se retrouvent. Lavan, Dieu lui a dit, ne parle pas à Yaakov, ta 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 ta. Et finalement, ils vont se faire ensemble une alliance et ils vont décider de nommer cet endroit. Ils vont faire un monticule avec des... qui s'appelle Galed, ah oui, qui veut dire aussi monticule du témoignage, cette fois en hébreu.
Et c'est le seul mot araméen qu'il y a dans la Torah.
C'est le, il y en a un autre. Il y a un autre moment, ouais, c'est lorsque la manne, elle tombe, ouais, et que les bénis Israël disent manhu. Et man, c'est en araméen, ouais, également. Ouais. En tout cas, effectivement, il regarde ça à Doutas l'araméen et Yaakov, il l'appelle en hébreu. Et c'est l'un des éléments premiers de la sortie de l'exil. Et oui, lorsqu'on, parce que là, Yaakov sort d'exil, que simplement, et c'est l'araméen, et pouf, on prend en hébreu. Ou en arabe.
Ou en espagnol.
Ou en toutes les langues. Voilà. Et en latino, et en tout ce que tu veux. C'est très sympathique. C'est contre-productif au niveau de la longueur. Et au niveau. C'est. Pourquoi pas? Ça a l'air. Donc, Vayashkem, Lavan, Baboker. Vayenashek, Lebanav, Livnotav. Vayevarech, Eten, Vayeler, Vayashov, Lavan, Lemkomo. Zéo. On se sépare de l'influence lavanite.
C'est moi?
C'est pas moi. Ve'yaakov alach ledarko ve'yifgeu bo malaché Elohim. Il a rencontré, lorsque Yaakov continue son chemin, il a rencontré malaché Elohim. Maze malaché Elohim. C'est qui ces gens-là que Yaakov rencontre? Mise à machalé. Alors nous dit Rashi, malachim shel eretz Israël ba'u likrato lelavoto la'aretz. En fait, vous vous rappelez que quand Yaakov est sorti d'Israël, il avait fait le fameux rêve de l'échelle, et il a vu des malachim. Et il a vu des malachim chez Olim et Yordim, Yordim et Olim. En fait, il y avait un, c'est comme une, le changement de la garde à Buckingham. Quand tu sors d'Eretz Israël, les malachim d'Eretz Israël s'en vont et t'accompagnent les malachim de Chutz Laaretz. Et quand tu rentres en Eretz Israël, bah, c'est l'inverse qui se produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces malachim qui t'accompagnent. Eh bien, la question est de savoir quel est mon lien avec le divin lorsque je suis ici et lorsque je suis là-bas. Mon lien avec la spiritualité dépend de l'endroit où je suis. Ça, c'est l'un des premiers endroits où on va s'en rendre compte, où véritablement mon lien avec Dieu, avec le transcendant, dépend de là où je suis. Et ça dépend pas seulement, évidemment que ça va dépendre aussi de mes actions, bien sûr, mais l'endroit a une importance. Oui, on n'est pas lié à Dieu de la même façon quand on est à Metz, à Paris ou ailleurs, que quand on est à Jérusalem. C'est comme ça. Zemayesh, comme on dit. D'accord? C'est-à-dire, la réalité de l'endroit, elle est fondamentale. Ok?
Les rabbins en France, ils sont d'accord avec ça? Pas tous.
Alors, d'abord, est-ce que c'est... qui dit tout le temps, viendra un jour où même les rabbins devront accepter la véracité du judaïsme.
Ouais.
Maintenant, c'est, le problème, c'est que ce n'est pas du tout humoristique. Non, c'est pour de vrai. C'est-à-dire, moi, je dis ça. Alors, va venir demain un rabbin avec une grande barbe et va dire, ah, c'est qui ce petit jeune? D'accord. Mais ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le dis. Par exemple, c'est Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer HaKuzari. Lorsqu'il va nous dire à propos du verset, Va'avatem sham Elohe ma'ase yede adam Elohe etz va'even asher lo yerichun velo yemishun. Vous servirez là-bas, quand la Torah nous dit vous partirez en exil, nous dit vous servirez là-bas des dieux de bois et de pierre. Et Rabbi Yehuda Halevi nous dit ubikashtem misham et Hashem Elohecha umatzata. Et là-bas on te dit depuis les synagogues tu voudras chercher Dieu, mais ça passera par qui? Par la croix et par la grosse pierre noire de la Mecque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, le peuple juif, dans son écrasante majorité, je ne parle pas de la communauté juive de Kaifengfu, qui a vécu entre le 6e et le 13e siècle en Chine, on va dire qu'ils sont quand même assez minoritaires dans l'histoire juive. De manière générale, les juifs ont vécu 2000 ans d'exil, soit chez les chrétiens, soit chez les musulmans. Et donc nous dit Rabbi Yehuda Halevi, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même à la synagogue à Paris, tu es influencé et spirituellement tu passes sous l'autorité de quelqu'un d'autre, même si toi tu penses parler à Dieu, évidemment tu vas pas te prosterner devant la croix, mais tu fais partie d'une ambiance spirituelle qui n'est pas celle d'Akadosh Baruch Hu, celle d'Israël. C'est une réalité. Et on peut se battre contre ça, dire, mais en malasot, le fait. C'est pas assez.
Oui. Je m'excuse, on peut ressentir ça aussi en Israël.
Non.
Si on est à Jérusalem et qu'on est à Eilat.
Ah, alors d'abord.
C'est pas la même impression au point de vue.
Tu dis qu'à Eilat, il fait plus chaud. C'est ça. Et là, tu fais plus chaud. Non, mais c'est évident. Tu as raison qu'à Jérusalem, c'est plus grand que dans le reste d'Israël. C'est pas une question d'Elat. Parce que je sens dans ton Elat une dimension de ah, Elat, c'est pas de Sagnois.
Non, non, Elat, c'est l'atmosphère de Houtzlaret.
L'atmosphère. Tu sais pourquoi tu dis ça?
Parce qu'il y a d'abord eu que des touristes.
Non, parce que tu te balades à Elat uniquement pendant le mois d'août ou alors pendant Hanouka. Ah, tu vas te balader à Elat en plein milieu de rien?
Oui.
Pas en plein milieu de
l'année. Et c'est une ambiance de touriste, même quand c'est en plein milieu de l'année?
Oui.
Ouais.
Ouais.
Faut rencontrer, faut aller se balader, au-delà des hôtels, faut aller se balader dans la ville de Eilat.
Ouais,
il y a une très très bonne yeshiva à Eilat qui s'appelle Malbich Arumim. Oui, c'est très important. Non, les amis, Eilat ou pas Eilat. Alors Eilat, t'aurais pu me dire, non, mais il y a une machloquette, est-ce que c'est Israël ou est-ce que c'est pas Israël? Alors non, c'est pour ça que je te réponds comme ça. Si tu me dis Eilat, parce que tu viens avec un bagage de dos.
Oh
non. Un bagage de religion. Bon. Non, ouais. Écoute-moi. Eilat, tu pourrais me dire, ah, mais Eilat, il y a une marloquette. Est-ce que c'est Israël ou est-ce que c'est pas Israël?
C'est sûr.
Ouais, non, à ce moment-là. Non, mais attendez. Si c'est, vous parlez au niveau halakhique, de me dire, t'as dit qu'en dehors d'Israël, face à Israël, non, c'est pas non, la même chose. Ouais. Alors Eilat, peut-être que c'est en dehors d'Israël. Là, ok, très bien, on va débattre halakhiquement, est-ce que c'est ça? Mais je pense pas que c'est ça que tu voulais dire.
Non, pas du tout.
Je pense que tu voulais dire Eilat parce que c'est pas tellement Yiddishkeit, machin. Donc à ce moment-là, tu dis Tzfat. Bah, tu vas te balader à Tzfat, c'est Kodesh Kodashim, Tzfat. Mais, effectivement, la grandeur de Tzfat ou de Tel Aviv, c'est pas celle de Jérusalem. Zénachon, que entre le reste du monde et Israël, c'est pas le même niveau. Mais de la même façon, il y a aussi une différence de niveau entre le reste d'israël et Jérusalem. C'est tout à fait vrai. Nachon, Yerushalayim, c'est au-delà. Et c'est pas la même chose quand t'habites à Mekor Chaim que quand t'habites dans la vieille ville. C'est pas la même chose non plus. En malasot. Alors quand je dis dans la vieille ville, je parle de Betoch HaChomot, de l'époque du Second Temple. C'est pas exactement les Chomot que nous on a aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il y a une élévation. Et quand tu es sur le mont du Temple, c'est encore autre chose. Nachon, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord. L'endroit influe. Mais de manière générale, c'est exactement la même chose si tu es à Bnei Brak ou à Tel Aviv. C'est la même Kedusha Bnei Brak et Tel Aviv. C'est-à-dire que les choses soient bien claires. Jérusalem, c'est au-dessus, mais Bnei Brak, Tel Aviv, Otodava. Donc l'endroit va influer. Alors après que des rabbins ne soient pas d'accord, bah, qu'est-ce que je te dis? Il y a des rabbins qui se trompent, c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire, je vous raconte mes travers de Shabbat Chol HaMoed Sukkot, j'étais subjugué. Ma femme a invité des amis, enfin moi je ne les connaissais pas, mais des amis qu'elle connaissait d'Angleterre, qui étaient en Israël. Et donc très gentils hein, les gens, au demeurant, une famille, mais tu sais très... religieux, alors ouais anglais, mais d'accord, mais c'était pas tellement ça le problème. Religieux, litaï, chapeau, pur et dur, haredi. Ok. Donc, on a fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie et que j'avais dit que je ne ferais jamais. Et tu sais, on m'a pas vraiment laissé le choix. Hein. De toute façon, les hommes ont toujours le dernier mot dans leur conversation avec leur femme, à savoir, oui, ma chérie. Mais c'est le dernier mot. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'avais toujours dit que je ne ferais pas comme font les religes, à savoir que Soukhot, on fait des repas entre hommes dans la souka et les femmes ailleurs.
Ah ouais,
bah ouais, bah là, j'avais plus de place. Donc, j'ai que 9 places dans ma souka, et encore une fois, quand on est 9, tu bouges plus. Donc, on était 9 garçons, donc les femmes mangeaient. Et donc, moi, j'ai mangé avec les garçons là-bas. C'était fantastique. Des gens religieux qui te prennent la tête sur des points de détail de machin. Mais attention, on ne viendra pas en Israël. Et alors, autant le père qui commence à essayer de non, mais tu comprends, là, pas ça, genre. Mais le fils, 20 ans, à la yeshiva, me dit sans honte non, mais tu comprends, il n'y a pas de yeshivot en Israël. Pour moi, il n'y a pas de yeshivot pour moi. Je dis comment ça, il n'y a pas de yeshivot? Je ne te parle même pas d'une yeshiva qui passe rouga. Il n'y a pas de yeshivot à chapeau en Israël, tu plaisantes. Je dis non, mais il y a des grandes yeshivot, Hevron, Mir, mais moi j'ai besoin d'une plus petite yeshiva. Et il n'y en a pas.
Il n'y a pas
de yeshivot en Israël. C'est la mauvaise foi accompagnée d'une erreur fondamentale sur ce que c'est la Torah, Israël, ce que tu veux. Donc oui, il y a des rabbins qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qu'est-ce que je te dis? Il y a aussi des gens qui transgressent Shabbat. C'est pas pour ça qu'ils ont raison. Hein. Ça a l'air. Donc, quoi qu'il en soit, ça y est, Yaakov sort d'exil. Mamash. Et donc, bah, on nous dit, Vayomer Yaakov, Kaashera, Machane Elohim Ze, Vaikha Shema Makom Ahu, Machanaim. Shte Machanot nous dit Rashi. Shte Machanot, Shel Chutzala Aret, Shebaou Imo, Atkan, Shel Eret Israel, Shebaou Likrato. Très bien. Donc là, maintenant, c'est vraiment la paracha qui passe la sortie de l'exil.
Et pourquoi il y a deux camps?
Ben, il y a le camp de Chutz Laaretz et le camp d'Eretz Israël. Ça y est, on est rentré maintenant. D'accord ? Et donc, la paracha de Vayishtar, que nous allons commencer maintenant, ben, c'est en fait le prototype de la sortie de l'exil. Très important. De la même façon que la paracha de Vayetse était le prototype du départ en exil, eh bien, la paracha de Vayishtar, c'est la sortie de l'exil. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Vayishlach Yaakov Malachim Lefanav Elesav Achiv Artsa Seir Sede Edom. Ok. Très bien. Pourquoi il fait ça ?
Il a la trouille.
Alors, deux secondes avant il a la trouille, j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu de géographie. Yaakov se trouve dans le nord.
Oui.
Okay. Le nord, le Golan.
Le Golan, oui.
Esav, Slicha, habite
Beersheba.
Vous avez une localité plus claire ?
Non.
Alors, Seir, c'est plus ou moins Petra.
Petra ?
Petra.
Ah ouais.
Petra, c'est un peu plus au sud que Beersheba.
Ah oui, c'est sûr.
Hein, on est bien, bien en dessous.
Oui, oui.
D'accord ? Sela Adom. Hein ?
Ah oui, ah,
bah
oui,
oui,
c'est le pays des
dômes. Oui, bah oui, oui, tout à fait.
Mais c'était avant.
Oui, c'était avant.
C'était là-bas.
C'était avant.
Bekitsour, donc c'est vachement loin. Et où est-ce qu'il veut aller, Yaakov ?
Je sais pas, bah, Beersheba, là.
Alors, Beersheba, Hebron, je sais pas.
Oui, c'est ça, Hebron, ouais, je sais pas.
Il passe pas du tout par chez Esav.
Pas du tout, oui.
Donc il est, pourquoi il rouvre la plaie ?
Il y avait peut-être en lui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, de vouloir se relier de nouveau à... Faire la paix avec
son frère.
À l'armée, on appelle ça Sheela Tkibbek. On appelait ça une Sheela qu'il fallait pas poser.
Ouais.
Et pourquoi tu. Viens là-bas, le temps qu'il apprenne que t'es rentré, machin, tu seras déjà installé. Pourquoi tu ouvres les problèmes ? Les amis, Yaakov sort en exil. À partir du moment où Yaakov sort en exil, le rôle qu'il doit jouer dans le monde, qui le joue ? C'est ça. Et ça prend la responsabilité et de lui et de Yaakov, puisque Yaakov n'est plus là. Lorsque Yaakov veut revenir sur le premier plan de la scène internationale, eh bien la moindre des choses est de demander la permission à celui qui a rempli son rôle pendant toute cette époque-là. Parce que vous partez, imaginez vous partez, pour une durée indéterminée de chez vous, et il y a quelqu'un d'autre qui gère. Et ce quelqu'un d'autre, il gère pendant 20 ans, 30 ans, 100 ans, 2000 ans. Et tu reviens. Alors évidemment que légalement, c'est à toi. Mais, je ne sais pas, une petite lettre en recommandé, je reviens. C'est la moindre des choses. Eh bien, les amis, à chaque fois que Am Israël va sortir d'exil, il devra d'abord demander la permission à celui qui maîtrisait le monde, qui gérait le monde pendant son exil.
Les Anglais.
Et, alors, vous allez tout de suite aux Anglais. Venez, on va dans l'histoire. Là, Yaakov parle à Esav. Il veut mettre Esav au courant. Plus tard, nous, à Israël, on va sortir d'Égypte. Eh bien, Moshe va envoyer un émissaire auprès du roi de Édom pour lui dire, ça y est, on sort d'exil. Mais avant cela, Dieu, combien il a bossé, entre guillemets, pour avoir le ishour, le ok de Pharaon? Il aurait pu nous sortir comme ça d'Égypte,
ben oui,
mais il veut la permission de Pharaon. À quoi ?
Il y a plein de.
Bah, ils étaient quand même esclaves, hein.
Attends, deux secondes. Il y a plein d'explications. De quoi ?
Il y a plein d'explications. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait sortir comme ça ? On a dit que le peuple n'était pas formé toute cette période. Il y a Guibouche, Kilo, il y a plein d'explications.
Bah, les amis,
Pourquoi les plaies ont duré à peu près un an.
Oui.
Machin au casé. Ils ont pu faire tout le régler le problème en 15 jours.
En un claquement de doigts.
Il y avait des raisons qui sont.
Mais je ne parle pas de notre point de vue.
Ah.
Je demande pourquoi il a fait tout ça pour avoir le OK de Pharaon. Parce que dans la Torah, toutes les explications que tu me donnes sont pas marquées dans la Torah. Dans la Torah, la seule chose qui se passe, pourquoi il y a tant de plaies, C'est parce qu'à chaque fois, on demande la permission à Pharaon. Et tant qu'on n'a pas reçu, ben, on ne part pas.
Oui.
Le fait qu'il y ait d'autres raisons, tu as raison.
Il aurait pu aussi donner la permission tout de suite.
Il aurait pu.
Oui.
Il aurait pu d'ailleurs ne pas donner la permission.
Aussi.
Ok. Oui. Mais de, tu vois que Dieu, c'est important pour lui, que Dieu, que Moshe, là, que Pharaon, il donne la permission. Donc, quand on sort d'Égypte, quand on sort de Perse, puisque ce n'est plus Babylone, puisque Babylone, certes, nous a envoyés en exil, mais entre-temps, ils ont été conquis par les Perses. Et donc, c'est les Perses qui gèrent, et les Perses vont faire la déclaration de Koresh. Cyrus, roi de Perse, qui donne la permission aux Juifs de rentrer chez eux. Ah, ben voilà. Et de la même façon, Lord Balfour va donner la permission aux Juifs de rentrer à la maison. Alors, vous me direz, la déclaration Balfour, on en parle, on en parle. En vrai, vous savez qu'elle n'a aucun poids, cette déclaration Balfour.
Non, c'était une déclaration d'intention.
Oui, ah, de qui à qui?
De déclaration gouvernement du ministre des Affaires.
Alors, non.
Anglais.
À qui?
À
personne. Du tout. La déclaration Balfour, c'est la déclaration d'un bonhomme, voilà, d'un bonhomme, Monsieur Balfour, certes, ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté, mais c'est une lettre qu'il envoie à Monsieur de Rothschild, de la branche anglaise. Ok, c'est tout. C'est une correspondance entre deux. Alors évidemment, qui lui dit, écoute, on a envie l'Empire britannique. C'est le fait que la déclaration Balfour va être signée, ratifiée par la SDN 3 ans plus tard, là, ça va avoir un vrai statut. D'accord ? Donc c'est la SDN qui signe la déclaration Balfour, qui donne le véritable statut international et légal à la déclaration Balfour. Entre parenthèses, je ne vais pas faire un cours de géopolitique ce soir, mais c'est le seul document légal qui a une réalité internationale. Il n'y en a pas eu d'autres.
Et le vote de l'ONU, non.
Parce que la résolution... des Nations Unies, avec le fameux vote du 29 novembre, qu'on aime à citer, et d'ailleurs il est important, parce qu'on voit aussi là que les nations ont dit donné la permission, c'est ce qu'on est en train de dire, mais en vrai, au niveau du droit international, le vote des Nations Unies ne sert à rien. C'est une proposition, une résolution de l'ONU, qui ne rentrera en vigueur qu'à une seule condition, que les deux parties sont d'accord. Vu que les Arabes ont rejeté, bah, le vote ne sert à rien, il n'a aucune légitimité légale. C'est-à-dire, donc le seul document légal, c'est la SDN, dans laquelle l'Empire britannique se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine. Ça comprend quoi ? Ben, le mandat britannique. Donc Israël et la Jordanie.
Bien sûr, oui.
Tout ça, c'est le seul document légal qui nous octroie et Israël et la Jordanie. Bon, le fait qu'aujourd'hui, l'ONU ait reconnu la Jordanie comme étant un pays, nous met en porte-à-faux par rapport à cela. Mais, par rapport à tous les territoires qui sont en Judée-Samarie, c'est-à-dire, quand on dit Israël a conquis illégalement, machin, mais de quoi ? De qui ? Il n'y a pas d'illégalité du tout.
Il
n'y
a jamais eu
d'État palestinien. Non, il n'y a jamais eu d'État palestinien, mais même la Jordanie, qui pendant 19 ans était le patron de la Judée-Samarie, ne l'a pas annexé. Donc, ça veut dire qu'en 67, Israël récupère un territoire qui n'appartient à personne. Si ce n'est à nous, d'après la déclaration Balfour et la SDN.
C'est ce qui se passe maintenant avec la ligne maritime.
Que ?
Il n'y a pas de résolution véritablement.
Non, mais, parce que pour avec la Syrie et le Liban, on n'a jamais fait de traité. Eh oui, bien sûr. C'est-à-dire, donc, tout ça pour dire que lorsqu'on sort d'exil, eh bien, on demande la permission aux nations, au monde. Non, ça ne veut pas dire que, attention, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on veut faire un pas, il faut demander la permission. Une fois qu'ils nous ont dit, ok, c'est où ? On fait notre vie. C'est-à-dire ? Donc voilà. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el etzav el achiv sera artsasir sededom. Vaitzav otam lemor. Voilà ce qu'il leur a dit de dire. Ce que Yaakov a dit à ses envoyés de dire à Esav. Kotomerun la adoni le Esav. Voilà ce que vous direz à mon maître Esav. Quand Amar Avdecha Yaakov, ainsi parle ton serviteur Yaakov, ça se pourra m'adouer un petit peu le public, Im Lavan Garti va Echar Adata. J'ai vécu chez Lavan. Ben non, est-ce que Esav connaît Lavan ?
Ben si, c'est son oncle.
C'est son oncle aussi. C'est la même famille, évidemment qu'il connaît Lavan. C'est-à-dire, Im Lavan Garti, est-ce qu'on sait que vivre avec Lavan, C'est facile ou c'est pas facile? C'est pas facile. Et il va voir tout ce que Yaakov a réussi à sortir de la vanne. C'est déjà en soi
un exploit.
Voilà, donc quand il dit il me la vanne gardée, c'est pas ça. Rachid dit, voilà, Rachid dit, comme tu dis, Tariag mitzvot shamarti. Rachid te dit, Im Lavan Gardi, en Gematria, ça fait 613. Donc c'est, j'ai réussi là-bas à suivre les 613 mitzvot. Alors, je suis un bon. Ouais. Ok, très bien. Vaïlishor, vechamor, tson, veeved, veshifra, veeshlacha, laagid laadonil, imtsochen beenecha. Je suis très riche. Et donc, je suis venu te. Essayer de trouver grâce à tes yeux. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. On arrive vers... En fait, ils sont revenus beaucoup plus tôt, parce qu'ils disent à Yaakov, il est au courant que tu viens, et il vient avec tous ses hommes, 400 hommes avec lui. Et là, ויראה יעקב מאוד, ויצר לו. Il a eu peur. Et c'est là qu'on doit se poser la vraie question, pourquoi il a eu peur. Alors je vais dire, l'autre, il vient avec 400 hommes armés, ça fait peur. Oui, mais non.
Non, c'est pas ça, c'est toute l'histoire du revenu, ce qui s'est passé. Quoi,
quoi du revenu?
La vente des trucs.
Et pourquoi ça lui fait peur? Ah, donc il dit, il a peur de se faire tuer. Mmh. Voilà. Et c'est ce que Rachid dit. Shema, Yareg. Mais sauf que moi, j'ai un problème. Pourquoi il a peur? Il y a 20 ans, Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit. Je te protège et il ne t'arrivera rien jusqu'à ce que tu rentres chez papa. Donc, il ne doit pas avoir peur. Notre ami Yaakov, Dieu lui a promis.
Oui. Il faut se préparer aussi. Il faut...
Non, mais ça c'est autre chose. Mais pourquoi il a peur? Ma question c'est pourquoi il a peur? A priori, il croit en Dieu, d'après tout ce qu'on a vu de lui. Donc Dieu lui a promis, il ne t'arrivera rien. Pourquoi il a peur? De tuer quelqu'un. Alors toi tu dis il a peur aussi de tuer quelqu'un d'autre. Shiarogu et acherim. Ça on y reviendra juste après si tu veux bien. Mais d'abord je reste sur le pourquoi il a peur. Eh bien en fait il a donné la réponse. Il a dit im lavan garti va echar ad ata. Et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Les amis. On a tous des sentiments extrêmement forts quand on parle de la Shoah, quand on parle de ce qui s'est passé à 75 ans. J'ai pas besoin dans ce groupe-là ici de développer. Mais posons-nous une autre question, à mon avis, qui est évidente. La question n'est pas tant comment ça se fait qu'il y a eu la Shoah là il y a 75 ans. La question c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas eu ça avant. Non. Shoah, il y a eu des énormes persécutions. Oui, mais Isabelle la catholique, si tu te convertis, elle ne te fait plus rien. C'est-à-dire que... Il y a eu des expulsions des juifs de partout, ça c'est pas un problème. Je dis simplement qu'il y a eu des pogroms, il y a eu des expulsions, il n'y a pas eu la Shoah. C'est-à-dire cette volonté de détruire de A à Z le peuple juif, il n'y a pas eu. Maintenant, ils n'ont pas été sympas avec nous, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il n'y a pas eu la Shoah. Et la question c'est, l'amalo. Est-ce que c'est simplement un manque de moyens? Je pense pas. Je pense que c'est pas une question de moyens. Et là-bas, nous dit la Torah, dans la parasha de Vaetranan, qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu fait une promesse au peuple juif, ve'af gamzot, malgré cela, biyotam be'eretz oivehem, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, lo ma'astim ve'lo afartim echalotam, la'aferet beriti itam. C'est-à-dire, je ne les abandonnerai pas, et je ne les laisserai pas tomber de mon alliance quand ils seront dans le pays de leurs ennemis. Nous avons une promesse d'Akadosh Baruch Hu que Am Israël, je parle évidemment au niveau collectif, je ne parle pas de monsieur et madame, tant qu'on doit être chez nos ennemis, on ne va pas disparaître. Et j'insiste sur le tant qu'on doit être. Nous dit la Torah, biyotam. Rachid dit, behavayatam yiyu. C'est-à-dire au moment où ils doivent y être. C'est-à-dire il y a l'exil qui est décrété par Dieu. Bon. Il y a une période à cet exil-là. Tant qu'on doit y être, puisque Dieu nous a mis là-bas, qui nous protège? Mais à un moment donné...
Tu ne protégerais
pas ici? Non, ici, on est protégé, évidemment. Ah. Mais là, on va parler d'un autre problème. Du passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand c'est plus le moment d'être en exil? métier toujours.
Ah, ça veut dire qu'il aurait dû juste partir le lendemain de la déclaration de la société.
Bien sûr, c'est dangereux. Et je vais même étayer mes propos. Non, je pense qu'ici, on a suffisamment étudié ensemble pour savoir que les choses sont évidentes. Les responsables de la Shoah, c'est les nazis et personne d'autre. C'est évident qu'il n'y a pas de justification à quoi que ce soit. Si Dieu il avait voulu tuer 6 millions de juifs, il aurait pu faire tomber un astéroïde sur 6 millions de juifs et on serait mort et puis voilà, point barre. La question de la Shoah, c'est même pas une question. Il y a des gens qui ont décidé de faire ça et c'est eux qui sont responsables. Point. Donc je viens pas du tout légitimiser quoi que ce soit. Je dis qu'il faut se poser une question au niveau du timing. Et la question du timing, en fait, elle n'est pas que dans la Shoah. Elle va se répéter encore une fois dans l'histoire. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir une tentative clairement énoncée de vouloir détruire le peuple juif,
comme l'Iran.
Alors l'Iran, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais viens, on passe d'abord dans l'histoire. Toutes les fois où il y a une tentative énoncée de vouloir tuer le peuple juif, c'était à chaque fois dans cette transition entre exil et Géoula. Ici, la première fois, puisqu'on sort de chez Lavan, on n'est pas encore revenu chez Papa Yitzhak, arrivé ça et veut nous tuer, finalement, on réussit à changer le truc et Baruch HaShem, il va rien se passer.
Parce qu'il y a transition.
On est dans cette transition, on n'est plus chez Lavan. Alors pourquoi Esav il ne vient pas attaquer? Il sait très bien que Yaakov est chez Lavan. S'il veut tellement nous détruire, pourquoi il ne vient pas chez Lavan? Tu sais pourquoi? Qui va nous protéger? Imaginons Esav arrive avec ses hommes chez Lavan. Qui va nous protéger? Lavan. Pas parce qu'il nous aime bien.
Je sais pas, parce qu'il est attaqué aussi. Oui.
Là, c'est parce que s'il reste chez Lavan, Yaakov, il ne le dérange pas.
Pourquoi il est plus énervé contre lui? Qui lui a pris son droit d'aîné?
Mais sûr qu'il doit être encore énervé.
20 ans.
Il est resté là-bas.
Ouais, il lui a rien fait.
Il a rien fait.
Mais c'est ce que je dis. Pourquoi il fait rien? Toi, tu dis parce que ça le dérange pas. Moi, je pense que si au moment où il arrive, il s'énerve et il vient le voir, c'est que ça c'est toujours pas passé son histoire. C'est resté là.
Chez
Lavan, c'était resté là aussi. C'est toujours là.
Mais Esav, il est pas resté. Comment chez ça, Lavan?
Non, Esav, il est resté d'abord chez papa, et après il est parti à Seir. Ouais, je dis simplement
protégé,
que...
Il est protégé par Dieu quand il est en exil,
oui.
D'accord? Chez Lavan.
Oui.
Il est protégé par Dieu quand on est en
avec Tsahal.
Mais le voyage...
Quand on est en Israël, on a alors, notre armée.
La transition...
C'est non. Entre les deux.
Et non.
Et là, je dis qu'il y a un problème. Là, je dis qu'il y a un problème. Et dans deux secondes, vous allez comprendre le verset qui le dit clairement. Mais je veux d'abord faire un récapitulatif historique, que vous compreniez que ce n'est pas seulement une fois. Là, c'est le cas. Ça sera le cas de nouveau en Égypte. Le petit-fils de Esav, Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Il devient un peuple. Quand on sort d'Égypte, il vient nous attaquer. Il va y avoir Amalek. Au moment où on vient de sortir d'Égypte, il va y avoir Amalek. Dis-moi, pourquoi tu ne nous attaques pas avant? Évidemment, si je t'attaque en Égypte, les Égyptiens, ils vont faire une bouchée de moi. Oui, c'est le petit-fils de Esav. C'est le fils de Eliphaz. Et Eliphaz, c'est le fils de Esav. Oui, et désolé. C'est pas mal. Maintenant, donc pareil, on sort d'exil, on est sorti d'Égypte, mais on n'est pas encore arrivé en Israël. Amalek arrive. De la même façon, Koresh nous a donné la permission de partir, mais on n'est pas encore rentré avec Ezra et Nehemia.
Donc,
Aman
nous tombe dessus.
Au milieu. Aman avec cette volonté de détruire le peuple juif. Je dis que dans notre génération, il s'est passé la même chose. On a eu la permission des nations de rentrer. On n'a pas encore créé l'État d'Israël en 48. On sait ce qui s'est passé au milieu. Je dis simplement que je fais un récapitulatif de l'histoire du peuple juif. Et donc à chaque fois qu'on est dans cette transition, le danger de l'annihilation par une force qui veut nous détruire, c'est présenté. Et c'est ce que nous disons. Attends, j'y viens dans tes croisades. Pas du tout. Parce qu'au temps des croisades, quand ils sont... Mais d'abord, les croisés, au temps des croisades, ils n'ont pas...
De roule,
non.
Quand ils ont, non.
Tu parles de quoi? De ceux qui sont arrivés en Israël? Mais encore une fois, ils ont tué des juifs. Non mais attendez, vous n'avez pas compris. Je répète que cette protection, c'est pas un truc qui fait que jamais personne ne va mourir. Aujourd'hui, en Israël, il y a des attentats et il y a des gens qui meurent. Donc, je parle au niveau du clan Israël. Je ne parle pas du, malheureusement, du pogrom ou de l'attaque ou des croisés qui vont massacrer tant ou tant de personnes. C'est pas de ça que je parle. Malheureusement, ça, c'est et pendant l'exil et pendant la Géoula et pendant tout le temps. Malheureusement, il y a des gens qui font le mal. Mais il y a une différence entre un pogrom et la Shoah. Cette volonté de tuer des juifs parce qu'on est passé devant une communauté juive et on n'aime pas les juifs, donc on les tue, comme ce qui s'est passé avec les croisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait les croisés? Ils n'avaient pas comme objectif de tuer le peuple juif. Ils avaient comme objectif de libérer le tombeau du Christ. Mais en chemin, fallait quand même s'entraîner. Et donc, dès qu'on passait par une communauté juive à Mayence, à Vermeise, je ne sais pas.
Et
ben ils ont massacré, tu sais qui aussi? Les musulmans, les juifs, les chrétiens d'Orient, ils les ont massacrés aussi. Donc on peut pas dire que c'était un truc face au peuple juif. C'est-à-dire, c'était on tue tout ce qui est pas croisé.
C'est ça.
C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Le fait que c'est croisé, c'était des pourris, c'est une réalité. C'est-à-dire, c'est pas, on va pas refaire le match. Agave, entre parenthèses, et j'ai dit ça à Philippe Cohen il y a quelques Shabbatot, parce qu'il a pas, il était choqué que j'avais dit un truc. Au même moment qu'il y a la première croisade, c'est-à-dire, et qu'il y a les décimations des communautés de Choum, okay, les communautés à la vallée du Rhin, et qu'on en parle jusqu'à aujourd'hui. Et, au même moment, il y a l'extermination totale des communautés juives de Malaga et des environs de Malaga. Okay, c'est exactement la même croisade, seulement c'est fait par des musulmans dans le monde arabe.
Oui, arabe.
Personne n'en parle. Peut-être aussi parce que l'histoire a été écrite par des mecs qui avaient un nom qui finissait en Stein, mais personne n'en parle. Et en termes de nombre, c'est pas moins de juifs qui ont été massacrés.
Mais pas par les mêmes.
Ah non, pas par les chrétiens, par les musulmans.
On n'en parle pas. Les
musulmans. Bah, on pourrait parler aussi des musulmans.
Non, toute l'histoire des croisades, c'est un, deux.
Et trois, pour moi, le comble dans tout ça.
Les musulmans qui ont tué à Malaga, ça relève beaucoup plus d'une histoire juive.
Ah ben bah complètement. Mais enfin, ils ont été tués par les musulmans. Mais non, mais ils ont été tués par les musulmans. Pourquoi? Parce que bah, de la même façon que les croisés, les chrétiens n'aimaient pas trop les juifs, bah, les musulmans n'étaient pas trop les juifs non plus. Je dis simplement que bon, il y a une histoire un petit peu sélective. Moi, le comble de tout ça, c'est pas notre sujet, mais moi je suis choqué à chaque fois que je vois des juifs qui amènent leur famille et pourquoi pas. Vous savez, tous les ans, il y a le festival des chevaliers dans la vieille ville. Tous les ans, un festival des chevaliers pendant 3 jours, et il y a plein d'activités, plein de trucs, machin. Tu peux avoir des chevaliers en armure, genre, oui, c'est rigolo. Hein. Demain, on va faire le festival des nazis à Jérusalem. Allons voir comment on apprend à saluer. C'est fantastique. C'est-à-dire, les croisés, c'était des bourris. Alors, maintenant, je dis ça d'un autre côté. Même, enfin, moi aussi. Toute mon enfance, c'était le roi Arthur. On a grandi avec les chevaliers de la table ronde. Et contre trois de Montmirail. Et tout ce que tu veux, plus de bouillon. Mais bon, quoi qu'il en soit, le fait est que donc il y a cette transition. Le passouk qu'on dit, le Shabbat avant Pourim, parashat Zachor, qu'est-ce qu'il nous dit? Zachor asher asa lecha Amalek baderech betsetrem mitzrayim. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek quand? En chemin. Parce que c'est quand tu es dans cette réalité du chemin que le danger pointe au bout de son nez. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on sort d'exil, y a une Shoah. Non, parce que la preuve, pendant toutes les autres fois, on a réussi à l'éviter. Mais malheureusement,
qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Il y a derrière ça le fait que, c'est très simple, le fait que quand on est en Israël, quand on est à la maison, quand on est à notre endroit, j'ai envie de te dire qu'ils y viennent. Bonire et Otrem. On va les avoir. Quand on est en exil, il y a cette protection de l'exil qui passe par qui? Qui passe par le patron de l'exil. Les nazis, ils vont pas tuer les juifs du bloc soviétique parce que Staline, c'est ses juifs à lui. Ça veut pas dire qu'il les aime, hein. Il les aime pas du tout. Mais c'est mes juifs. S'il y en a un qui les persécute, c'est moi. Ça a l'air. Donc, il y a cette réalité-là. C'est une réalité qui existe depuis Yaakov et elle est toujours vraie. Baruch HaShem, aujourd'hui, on est sorti d'exil et on est rentré dans la Géoula, donc on a terminé l'histoire du chemin. Quand je vais en Pologne et qu'on me demande, mais est-ce que ça peut réarriver? Je leur réponds, non, il n'y aura plus la Shoah, c'est terminé. Pas seulement parce qu'on a une armée forte, ou parce qu'il y a les médias, ou parce qu'il y a TikTok, parce que on n'est plus en chemin. On n'est plus en chemin.
Ouais, au niveau du peuple.
Ok, au niveau du peuple, évidemment. D'accord? Donc là, Yaakov, il dit, pourquoi est-ce que j'ai peur? Bien sûr que j'étais protégé quand j'étais au moment où je devais y être. Mais je vous rappelle que ça fait 6 ans que j'ai dit, quand Yosef est né, je m'en vais. et je suis resté pour faire du business. Donc cette période-là, j'aurais peut-être pas dû rester. C'est pour ça qu'il dit Im lavan garti va echar adata.
C'est ça
que tu dis. Ben oui, bien sûr.
C'est marrant parce que Rachid, il dit rien dessus.
Parce que c'est tellement clair.
Non.
Quand c'est clair, Rachid, il dit pas. C'est très clair. À tel point que le Talmud va nous dire que ce problème-là, c'est ce qui va faire peur à l'un des plus grands maîtres du Talmud, qui s'appelait Rava, qui avait peur de l'époque messianique, à tel point de dire « Yete velo achmine ». À propos du Mashiach, il disait « Qu'il vienne, je ne veux pas le voir. » C'est-à-dire, je ne veux pas être là pendant l'époque messianique. Alors, sa chavruta a baillé. Il lui dit « Mais pourquoi t'as peur ?» Tu as peur de quoi ? Il dit « Chevle Mashiach ». J'ai peur des douleurs de l'enfantement messianique. Or, les douleurs de l'enfantement messianique, dont on sait aujourd'hui, c'est la Shoah. Alors, son copain, il lui dit « Bon, tu sais bien qu'il y a un moyen de se préserver des Chevle Mashiach. C'est quoi ? C'est Torah avec Milut Hasadim. » Et Rava, il lui dit « Ah, ça ne marchera pas. Torah avec Milut Hasadim, ça ne protège pas de la Shoah. » La preuve, je pense qu'on sait à quel point il y a des gens qui étaient des grands tzadikim, ils sont quand même morts dans la Shoah. C'est pas ça qui les a protégés. Alors il dit, non, j'ai peur parce que, comme Yaakov, j'ai peur de vivre l'époque messianique et de ne pas comprendre que ça y est, c'est le moment où c'est fini l'exil et il faut partir. Ben, je suis désolé de vous le dire, mais l'exil est terminé.
Ouais,
et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris. Ouais. Et moi, eh ben, j'ai peur, vraiment pour eux. Parce que la réalité du peuple juif en Chutz La'aretz aujourd'hui,
elle est
catastrophique, pas seulement au niveau de l'assimilation, mais aussi au niveau sécuritaire. Vous allez me dire, non, mais attends, il y a des attentats en Israël aussi. Nachon. Et je rappelle ici les paroles de mon papa Shlita, mon père Shlita, qui m'avait dit le soir du Bataclan, enfin le lendemain, parce que c'était Shabbat, le lendemain du Bataclan, donc évidemment tout le monde était choqué, mais je vous rappelle qu'au moment où il y a eu le Bataclan, nous, ça faisait un an qu'on était en intifada, l'intifada des couteaux. Il y a eu ça aussi. Et il me dit, hey, vous, ça fait je ne sais plus combien de mois qu'on était dans le truc, vous, en plein de mois, il y a eu 23 morts, nous, une soirée, 140. Hein ? Ouais, mais ça nous fait rire, mais c'est terrible.
C'est vrai, on sent dans le monde entier maintenant que c'est juste sympa.
C'est un vrai problème. C'est-à-dire, donc, Bekitsour, tout ça, reste dans le Vayira Yaakov Meod. Après, tu dis Vayetzer Lo. Ça ne suffit pas. Pas seulement Vayira Yaakov, on a dit il a eu peur de se faire tuer, tout ce qu'on vient de dire. Mais Vayetzer Lo, il était très angoissé. Rashi nous dit Shema Yaarog Hu et Acherim. Mais qu'est-ce que c'est
de tuer
qui
son frère.
Ah ben non. Alors, Shema Yaarog Hu et Esav. Là, il nous dit mais c'est qui Acherim? Si tu dis qu'il avait peur de tuer des gens, bah c'est la guerre, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a ? Il t'attaque. C'est pas toi qui as lancé l'idée. Acherim, dans la Gemara, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes.
Oui.
C'est la bougie.
Oui, oui.
Rabbi Meir.
Oui, oui.
Tu vois ? J'ai dit Rabbi Meir, elle s'est réveillée.
Bah,
ben évidemment. C'est comme ça qu'il faut dire, non ?
Oui, il l'a bien prononcé.
Rabbi Meir.
Rabbi Meir Balanes.
Ah, bah, on dit pas le lamed. Balanes.
Ba'anis.
Ouais. Ba'anis.
Voilà.
Ça, c'est
et quand tu demandes aux gens, et c'est quoi le Nes en question, ils ne savent plus te répondre. Parce que Rabbi Meir Ba'anis, ça veut dire le faiseur de miracles. Mais de quel miracle on parle ?
C'est
Ba'anis. Oui, mais il y en a un en particulier. C'est pour ça qu'on l'appelle Ba'al Hanes.
Ah, c'est ça.
Eh oui, il y a un miracle en particulier. Mais on ne va pas rentrer maintenant sur l'histoire de Rabbi Meir. Mais attends, quel rapport ? Rabbi Meir, c'est 1500 ans après Yaakov.
C'est ça.
Quel rapport ? Pourquoi il a peur de tuer Rabbi Meir ? Eh bien, Rabbi Meir est un descendant de Esav.
Ah oui, aussi ?
Eh oui, Rabbi Meir, bien sûr, Rabbi Meir est un descendant de converti. Eh oui, descendant de converti de Esav.
Ah d'accord.
Eh oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, il a peur ? Il dit, mais dans Esav, il y a des choses très bien. Il y a des choses qui, un jour, vont sortir Rabbi Meir. Moi, j'ai peur de détruire ça. Et ça, c'est un vrai problème. Hein ?
Il avait la prophétie juive.
D'abord, Yaakov, bon, c'est pas n'importe qui le bonhomme.
Yaakov,
mais effectivement, bah, il se trouvait que c'est la même chose avec Moshe. Alors, on n'est pas encore dans le Sefer Shemot, mais Moshe, vous vous rappelez une histoire où il y a un Égyptien et tout, il va tuer l'Égyptien. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il le tue. Et après, il fait quoi ?
Il l'enterre.
Il l'enterre.
Il l'enterre.
Voilà.
Et il s'enfuit.
Ça, pourquoi il l'enterre ? Et juste avant d'enterrer, il a fait quoi ? Vaïfen Kovako.
Il a regardé à moi ou pas ? On m'a vu.
Il a regardé.
Alors, il a regardé pourquoi ? De ce qu'on dit en général, c'est pour voir que personne ne l'avait vu.
Voilà.
Est-ce que ça a marché ?
Non,
il est très mauvais, hein, ce jeu. Hein,
oui.
Parce que le lendemain matin, quand il voit les deux juifs qui se disputent, il dit « Ah, tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors, tout le monde est au courant. Donc, soit Moshe est très mauvais, soit c'est parce qu'il a regardé. Et nous dit le Sefer HaZohar que Vaïfen Kovako, il a regardé dans tout le passé de cet Égyptien, tous ses anciens Gilgulim et dans son futur, et il a vu qui en sham ish. Qu'il n'y a personne qui va sortir de cet Égyptien-là. Donc c'est bon.
Mais comment est-ce qu'on explique un petit peu ce qu'il puisse voir qui, comment est-ce qu'on
non.
explique
Ah, tu dis avant de tuer. Hein. Il aurait peut-être dû regarder avant.
Comment est-ce qu'on explique que Moshe avait déjà comme ça le. C'est-à-dire le roi Hakodesh au lieu de ne voir à ce moment-là.
Bah, alors, oui, quoi
dit, c'est arrivé quand il est.
Oui.
Quand il est arrivé. Le sné.
Oui, tout à fait, c'était après, bien sûr, il s'est enfui après. Oui. Nous, on dit le Rambam. Le début de la prophétie de Moshe commence là. Parce qu'il fait un acte qui est basé sur la morale. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit ici que Yaakov a très très peur de « Ok, il va falloir que je fasse quelque chose. Est-ce que je risque de prendre les bonnes choses de Esav et de les empêcher de venir au monde ?» Mais en malasot, ce n'est pas parce que j'ai peur que je ne fais pas le boulot. « Ve'achatz et ha'am asher ito ve'et atzon ve'et abakar ve'agemalim lishnei machanot » J'ai séparé tout le monde en deux. Il a séparé tout le monde en deux camps. Vayomer im yavo esav el hamachane ha'echad veikau vayom hamachane ha'sheni anishar lipleta. Comme ça, s'il me frappe un, l'autre au moins survivra. Vayomer Yaakov Eloé avi Avraham Eloé avi Yitzchak Hashem omer elai shuv la'artzecha u'molatecha ve'etiva imach. Katonti mikol ha'chasadim u'mikol ha'emet. Cher Asita et Avdecha, très jolie chanson de Nathan Razel. Hein, t'as vu ? Alors, tu sais quoi ? Je m'arrête là-dessus et sur une anecdote. D'accord ? Et on s'arrêtera sur ce verset. Il y a presque 9 ans, ça, le 19 décembre, ça fera 9 ans. Ok ? Ma femme est rentrée en salle d'accouchement. Seulement, par différence des deux premiers accouchements, elle a décidé que cette fois, il n'y aura pas de péridurale. Que ça sera un accouchement naturel. Ok.
L'autre, il est naturel aussi. Hein.
Quoi ?
Non,
quand on met une grosse piqûre comme ça. Alors d'abord, il n'y a jamais marqué tu enfanteras dans la douleur. On a dit Etsev, c'est pas la douleur. C'est pas Kev.
Ah, c'est quoi?
Etsev, c'est la tristesse. Bien sûr, il y a une tristesse très forte de sortir une vie qui est en toi. Le baby blues, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, ça, c'est une réalité, péridurale ou pas péridurale. C'est-à-dire, c'est pas la douleur. D'accord? Il y avait un rabbin à Bnei Brak, on va pas dire le nom. Il y avait un rabbin à Bnei Brak qui avait dit qu'il l'interdisait la péridurale parce qu'il y avait marqué Etsev Tildibanim et que lui, il avait traduit ça en mode douleur. Alors le Rav Cherki, il avait dit, moi je suis prêt à signer pour, je signe à ses côtés, mais à la condition que lui il fasse, c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain.
Ouais.
Ah, ça va dans les deux sens, sinon ça marche pas. Ça a l'air. Bekitsour, donc elle est en salle de bon, au début ça se passe bien, machin, et puis bon. Contraction arrive, elle n'avait jamais vécu de contraction, ma femme. Parce que la première fois, elle avait perdu les os avant que ça commence, les contractions, et comme elle avait une espèce de bactérie, elle nous avait dit dès qu'elle perd les os, il faut venir à. Donc elle est venue, elles lui ont mis l'antibiotique, ils lui ont donné la péridurale, et puis c'est terminé, et elle n'a pas senti. Deuxième, pareil, machin. Donc bon, au début, elle dit ouais, ça va, c'est bon, c'est pas si grave. Puis bon, vous savez comment ça marche mieux que moi, hein, je ne vais pas vous le dire. Et voilà, hein, vous savez mieux que moi. Mais qui te sort, et finalement, arrive le moment où voilà, ça devient compliqué.
Il est où l'anesthésiste ?
Non, elle ne demande pas. Mais moi, je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, machin, je sais pas. Je lui dis, pour la calmer, je lui dis, tiens, je vais mettre le téléphone avec la playlist des chansons calmes, Neshama, je ne sais pas si ça va t'aider. Elle dit, vas-y, tu sais quoi, on s'en fiche. Ok. alors je mets là les chansons, elles passent, machin. Est-ce que ça l'a aidé ou pas? J'en sais rien. Le fait est
que.
Bah non, moi j'étais même pas dans la pièce après. Alors elle m'a dit dehors, elle m'a dit sors. Non, j'ai cru que c'était Fort Boyard. Elle m'a dit sors, prends la clé, ça. Alors bon, je suis sorti. Et puis, alors je sais pas à qui que quoi qu'est-ce, mais en tout cas ma fille a entendu la chanson Katonti Mikola Chassadim de Nathan Razel et elle est sortie. Floup. La chanson, elle a duré 3 minutes. Hein. C'est-à-dire, au moment où la chanson a commencé, elle était encore, pas encore, elle était ouverte à 10 cm, mais ça ne sortait pas. Et à la fin de la chanson, il y avait bébé.
C'est génial.
Incroyable. Bon, très bien. Alors, pourquoi je vous raconte l'anecdote? Parce que, en fait, pendant cette période-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un truc qui s'appelle le bac bleu-blanc. Le bac bleu-blanc, c'est un grand événement où toutes les terminales des écoles juives de France viennent en Israël pendant une semaine. Et bien, moi, j'étais avec un groupe à ce moment-là. Donc j'étais avec un groupe, ma femme m'avait appelé le mercredi pour me dire ça va être le moment. Donc j'ai lâché le groupe, on revenait du nord, et je lâche le groupe et je vais la retrouver. Maintenant le jeudi soir, le bac bleu blanc, c'est le grand événement du bac bleu blanc où toutes les écoles sont réunies, il y a un salon des écoles et tout ça machin, et puis après il y a un grand concert, et il y a Yonatan Razel qui vient. Donc moi, une fois qu'elle a accouché, nanana, bah, il y a un nouvel, à 5h de l'après-midi, il y a une dame qui est rentrée dans la chambre où ma femme elle était, et elle a dit qu'elle demande que moi je sois pas là, elle voulait pas d'autres hommes dans la pièce, machin. L'infirmière, elle m'a dit, bon, de toute façon, t'es là toute la journée, faut qu'elle se repose, sa femme. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, je rentre à la maison. Ma mère, elle était là, elle gardait les enfants, les deux autres. Donc, j'ai dit, bon, bah, si déjà ma mère, elle est là, bah, je vais retourner voir mon groupe. Et donc, je retourne au bac bleu blanc. Et je vais voir en coulisses. Ouais. Il atteint Razel et je lui dis, écoute, il faut vraiment que je te dise merci. Il m'a dit quoi? Je lui raconte l'histoire. Je lui raconte l'histoire. Ma fille est née sur ta chanson, là, il y a quelques heures. Ah, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, bon, alors on est obligé de la chanter ce soir au bac bleu blanc. Et donc, il a chanté la chanson pour la première fois devant un public francophone. Voilà, que, évidemment, il ne connaissait pas la chanson, mais c'était une très belle chanson. Et donc, voilà, c'était l'anecdote de la chanson. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de maintenant il se met à prier? Eh ben, on verra. La semaine prochaine. Zagbo.